Il paraît que un des célèbres fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin, a dit que dans ce monde, il y a deux choses qui sont certaines. C'est une phrase assez connue, hein. La mort et les impôts. Et la mort, même si aujourd'hui en France et dans notre société, on arrive à la cacher, on arrive à faire semblant comme si elle n'existait plus trop, on arrive à créer des distances de protection de la mort, c'est inévitable, on va tous être confrontés. Moi, mon premier enterrement, c'était à l'âge de 17 ans. C'est vrai que dans une société en développement ou plus pauvre, les enterrements, c'est chose fréquente, on meurt beaucoup plus jeune. Moi, voilà, premier contact avec la mort de près, 17 ans. Et je ne sais pas quel était votre contact, mais une chose est certaine, on va tous l'affronter de près, même si on essaye de se donner cette impression que c'est pas pour nous. Et on essaie d'ignorer cette réalité. Anna, cette semaine, beaucoup ne savent pas, elle était très malade. C'est vrai que dans mes scénarios qui passaient dans ma tête, hein, je me disais, mais peut-être elle va mourir. Elle a passé 5 jours à l'hôpital, 3 nuits. La mort, je ne sais pas si on était prêt ou pas, peut-être pas, mais il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et la mort peut nous arriver à n'importe quel moment. Moi, mon premier enterrement, c'était pour une fille, j'avais 17 ans, et c'était pour une fille de 17 ans, qui avait été tuée par un chauffard, alors qu'elle rentrait de chez sa copine en scooter. Le chauffard roulait à 100 km à l'heure, mauvais côté de la route, tuée sur le coup. Et ça peut nous arriver à n'importe quel moment, même si on met plein de protections, même si on fait tout pour éviter ça, même si on porte un casque. Et pourquoi je dis ça? C'est peut-être c'est pas très gai, mais Jésus, on peut parfois se dire, mais Jésus, lui, il connaissait pas ça. Jésus, il est vraiment sur une autre planète. Et on arrive à la fin de notre série sur tous les miracles qu'a fait Jésus et sur ses enseignements publics. Et on arrive avec un Jésus qui est doublement confronté à la mort. Dimanche dernier, on a vu que Jésus lui-même risquait la mort. On a essayé de le lapider, de le tuer avec des pierres, parce qu'il se disait être Dieu. Donc il est confronté lui-même à la mort et il doit s'enfuir pour pas être exécuté sur place. C'était la fin du chapitre 10, versets 40 et 41, 42. Et maintenant, dans chapitre 11, on voit qu'il est confronté pas juste à sa propre mort, mais il est confronté à la mort d'un de ses plus proches amis. Et on va regarder ça, ce texte, en quatre grandes questions, si vous voulez, quatre choses à remarquer. Le texte, il est incroyable. C'est le plus grand miracle qu'a accompli Jésus de toute sa vie. Et on va voir que c'est un texte qui est pour tous ceux qui ont du mal à croire en Dieu. Et c'est normal d'avoir du mal à croire en Dieu parfois. On a tous ça. Face à la mort, surtout face à la souffrance, c'est une question naturelle de se poser cette question. Est-ce que Dieu peut vraiment exister? Et on va regarder comment le texte apporte une piste de réponse. Deuxièmement, on va voir que c'est un texte pour ceux qui ont tendance à négliger la Bible, négliger la vérité. Face à la mort, on a besoin de ce livre-là. Et troisièmement, c'est un texte pour ceux qui ont mal. Point. Tout court. C'est un texte pour ceux qui ont mal. On va voir comment Jésus réagit à la souffrance et à la mort. Et quatrièmement, c'est un texte pour confirmer toutes les promesses de Jésus qu'on a vues depuis le chapitre 1 de Jean. Pour ceux qui sont en train de voir juste le dernier message sur la fin, on va essayer de quand même faire un petit récap. Rapide, très rapide en 1 minute. Voilà, quatre choses qu'on voit dans ce texte, on va le prendre dans l'ordre. C'est vraiment l'ordre du texte. Je propose qu'on lise la première section. Donc, vous avez tous une Bible? Ou on vous a proposé une Bible au moins? Dernière chance. Et en plus, je donne les numéros de page dans la Bible blanche, donc si vous n'en avez pas, profitez-en. Page 696 dans les Bibles blanches. Page 696 dans les Bibles blanches, chapitre 11. Jean 11. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. C'est la première partie du texte. Et on voit ici Jésus confronté pas juste à sa propre mort, mais maintenant à la mort de Lazare. Et ça devrait nous choquer un peu ce qui se passe. Il y a surtout une phrase, une déclaration et une action de Jésus qui est choquante. Mais on va la regarder. Mais il nous arrive tous de douter de Dieu. Moi, le premier. Alors, ça peut être de son existence tout court. Et ça peut être un peu plus nuancé. Face à la souffrance, on peut douter de sa puissance ou on peut douter de sa bonté. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu des grands athées français, mais c'est vraiment la souffrance qui est un des grands problèmes pour les athées, qui les dérange tellement. Et c'est souvent une raison de rejeter Dieu. Accrochez-vous, c'est la seule partie compliquée de tout le message. André Comte-Sponville dit « Ou bien Dieu veut éliminer le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il ne le veut ni ne le peut, ou il le veut et il le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant. Ça ne convient pas à Dieu. S'il le peut et ne le veut, il est méchant, ce qui est étranger de Dieu. S'il ne le peut ni ne le veut, il est à la fois impuissant et méchant. Il n'est donc pas Dieu. S'il le veut et le peut, ce qui convient seul à Dieu, d'où vient donc le mal? Ou pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas? La grande question, je pense que c'était Socrate qui était le premier à le formuler comme ça. Et on peut résumer, l'auteur ici de ce livre le résume comme ça. Si Dieu est tout-puissant, il pourrait éliminer le mal. Et si Dieu était bon, il voudrait éliminer le mal. Comme le mal existe, Dieu n'existe pas. Voilà le raisonnement. Ok? Et en fait, il y a au moins 2 grandes erreurs, et le texte ici en aborde une, c'est que si Dieu, il suppose que si Dieu est parfaitement bon, il est impossible qu'il veuille que le mal se produise. Si Dieu, leur erreur de logique, c'est qu'ils supposent que si Dieu est parfaitement bon, il voudrait pas que le mal se produise. Et le texte contredit directement cette supposition. Regardez avec moi. Jésus dit au verset 4, en apprenant que son ami, qu'il aime tellement, est en train de mourir, il dit à cette nouvelle, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Jésus, ici dans le texte, a le projet qu'à travers la mort de son ami, quelque chose de mieux, un plus grand bien ait lieu. Oui, ses amis vont souffrir. Ils vont perdre leur frère. Oui, son ami Lazare va mourir. Et est-ce qu'il le veut? Ça l'attriste. Est-ce qu'il le veut? Ben oui. Il aurait pu rentrer plus tôt. Il aurait pu le guérir. Il a guéri de nombreuses personnes dans l'évangile selon Jean. Mais ici, on va le voir plus tard. Jésus veut que cette souffrance ait lieu pour qu'un plus grand bien se produise. Et donc, l'argument, un des arguments forts de l'athéisme, en prend un coup. Parce que Dieu est bon, Jésus est bon, mais il arrive qu'il veuille qu'on vive quelque chose de très douloureux pour qu'un plus grand bien puisse être donné. Et on le voit verset 5, « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. » Pour que ce soit super clair, c'est dit, noir sur blanc. Il aimait Marthe, Marie, Lazare. Hélas, où ça nous choque, verset 6. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où ils étaient. Il aime Lazare et donc il ne va pas le guérir. Il aime Lazare et donc il ne va pas le guérir. Il nous arrive tous de douter Dieu. Mais le texte nous montre que Jésus est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Jésus est bon et puissant, mais il permet la souffrance pour un bien supérieur. Et on va voir ce que c'est. Deuxièmement, face à la mort, c'est seulement la vérité de la Bible qui peut nous soulager. C'est seulement la vérité à propos de Jésus qui peut nous soulager. Donc c'est un texte qui est pour nous tous qui avons tendance, dans la souffrance, à négliger la vérité, à négliger les vérités fondamentales à propos de Jésus. Regardez la suite. On va le lire à partir du verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » La théologie, ça peut sembler un grand mot, mais la théologie, au plus simple, ce sont des vérités à propos de Jésus qui offre, qui promet, qui garantit la vie. Et face aux souffrances, face aux doutes, face à tout ce qui vacille dans notre vie, on a besoin de revenir à ce que Jésus a vraiment dit. Et ici, il y a une femme, une amie, qui vient lui dire, « Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et à Marthe, il répond en lui disant des vérités à son propos. Il lui dit qui il est. Il lui dit le fameux « Je suis la résurrection et la vie ». Et juste au passage, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment même pas la Bible, même qui diraient que l'amour unit et que la théologie divise. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un conjoint, un époux, qui ne voudrait rien savoir sur ce que aime son épouse, son époux, qui veut rien savoir des intérêts, de ses goûts, de ses préférences, de ses passions? Jésus nous dit ce qu'il aime. Jésus nous dit ce qu'il déteste. Jésus nous dit pourquoi il est venu. Jésus nous dit quel est le sens de la vie. Et beaucoup d'entre nous, on se dit chrétien et on ne sait pas qui est Jésus. On ne sait pas ce qu'il veut pour nous. Et ici, à Marthe, il la réconforte avec de la vérité dure et pure. Il est la résurrection et la vie. Et on pourrait bien sûr prêcher de nombreux messages juste sur cette déclaration-là. Troisièmement, c'est un texte pour ceux qui ont du mal, ceux qui ont mal, tout court. C'est un texte pour ceux qui ont mal. Face à la mort, regardez comment Jésus réagit maintenant, pas avec Marthe, mais avec Marie. Même déclaration. Verset 28, on va lire. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici, et il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, regardez, même phrase, hein, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?»
Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau.
À une des sœurs, il lui dit une vérité fondamentale à son propos. Et à la deuxième sœur, qui vient en pleurs, Jésus montre toute son humanité. Depuis le début de la série, on dit que Jésus, c'est le Dieu homme. Et ici, on voit vraiment combien il est homme. Jésus a annoncé, on l'a lu dans le texte, on est passé vite, mais il a annoncé qu'il allait réveiller Lazare. Il sait ce qu'il va faire. Et il pleure quand même. Il sait ce qu'il va faire dans ma vie, dans ta vie. Et il pleure quand même. Il est plein de compassion. Il nous aime. Et donc si le doute dans mon cœur, dans ton cœur, c'est que Dieu est lointain, de nouveau la vérité de la Bible nous rappelle que Jésus est plein de compassion. Est-ce qu'il y a des choses atroces qui ont lieu dans le monde? Oui, juste la semaine dernière, j'ai des amis qui sont partis à l'hôpital. Ça fait des mois que leur fils a un problème grave. Et un de leurs amis qui connaissent depuis des mois, d'autres enfants, un enfant de 3 ans, à l'hôpital, Suzy, elle ne s'est pas réveillée de son opération. Est-ce que c'est atroce? Oui. C'est plus qu'atroce, les mots manquent. Est-ce que Jésus pleure? Oui. Il pleure. Mais est-ce que Jésus est au contrôle? Oui, il est au contrôle. Et donc, au lieu de nous faire douter, ce sont des moments comme ça qui doivent nous faire revenir. Et on doit avoir confiance que Jésus est plus fort que la mort, que Jésus est avec nous dans la mort et il pleure avec nous. Et que Jésus va faire quelque chose de plus grand à travers les grandes horreurs de nos vies. Est-ce qu'il pleure pour autre chose que l'atrocité de la mort? Est-ce qu'il pleure pour autre chose que les pleurs de Marie? C'est possible, il est complexe Jésus. Il est Dieu et il est homme. C'est très probable qu'il pleure aussi avec un sentiment de révolte face à la mort qui est vraiment une saleté. Elle nous détruit la vie depuis le début. Mais au minimum, ce qui est sûr dans le texte, il réagit aux pleurs qu'il voit dans les yeux de Marie et il pleure avec elle. Courte parenthèse sur la mort. La mort pour le chrétien, elle est atroce. On peut pleurer avec Jésus, on a le droit de pleurer et même on devrait pleurer. Mais pour celui qui croit qu'il n'y a rien après la mort, c'est encore pire. Ici, le philosophe chrétien Bignon, lui, il donne l'illustration, c'est comme réaménager les chaises sur le Titanic. Votre vie, c'est comme réaménager les chaises sur le Titanic si après la mort, il n'y a plus rien. À quoi ça sert? C'est comme on serait en train de nettoyer notre bureau alors que dans les tours du 11 septembre, du World Trade Center, en train de nettoyer notre bureau alors qu'elle s'écroule. C'est ça la vie, s'il n'y a rien après la mort. Quatrièmement, c'est un texte pour confirmer toutes les promesses de Jésus. Donc, on résume. 1. Face à la mort, c'est normal de douter de l'existence de Dieu, mais ce texte répond à certains des doutes. Notamment celui de, est-ce que Dieu peut être bon et en même temps utiliser le mal? Et donc avoir une raison pour le mal pour qu'un plus grand bien en ressorte? La réponse du texte, oui. Deuxièmement, face à la mort, la vérité nous soulage et on a besoin de cette vérité. Un chrétien qui n'aime pas la vérité, c'est incohérent au minimum, voire schizophrène. Troisièmement, face à la mort, Jésus pleure avec nous. Et quatrièmement, face à la mort, Jésus est plus fort. Et c'est essentiel parce que tout ce que Jésus a dit, fait depuis le début de Jean, serait contredit si Jésus n'avait pas la puissance de ressusciter Lazare. Et on va lire le texte. La fin du texte, verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, j'ai pas relevé, il semble être ému à 3 reprises dans le texte. Il est dit noir sur blanc, Jésus pleura, mais il est 2 fois profondément indigné. La mort ne devrait pas exister. Si elle existe, c'est en conséquence de notre péché, de notre rébellion contre Dieu, de notre séparation avec Dieu. On ne veut pas de Dieu dans notre vie et donc on a été jugé, maudit avec la mort. On lit verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé
à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. On a un texte ici pour confirmer toutes les promesses de Jésus. Donc si vous avez raté le début de la série, je pense 18 messages sur Jean 1 jusqu'au chapitre 10, je vous les résume, c'est gratuit, de rien. Jésus, depuis le début, fait plein de choses, mais notamment, il y a un accent énorme sur sa promesse de nous donner la vie. Ça commence en Jean 1, verset 4, où il dit, où l'évangéliste qui écrit, dit « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Et puis ça continue. Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il dit être, il dit « Je suis l'eau qui donne la vie. » Il dit « Je suis le pain de la vie. » Il dit être la lumière de la vie. Il dit être la porte qui mène à la vie. Et il termine dans Jean 10, non seulement il est la porte qui mène à la vie, mais il est le berger qui donne sa vie pour qu'on ait la vie. Et comment est-ce qu'on pourrait prouver que les promesses de Jésus sont fausses? C'est s'il n'avait pas le pouvoir sur la mort. Tu ne peux pas promettre la vie si la mort va te vaincre. Et donc Jésus vient ici dans Jean 11, sachant qu'il doit prouver son pouvoir sur la mort pour que tous ces miracles, toutes ces paroles soient authentifiées avec un dernier miracle, le septième miracle dans l'évangile selon Jean, pour qu'on sache qu'il est plus fort que la mort. Il promet la vie depuis 3 ans et maintenant on va voir qu'il est capable de tenir cette promesse. Il y a au moins 6 indices dans le texte que c'est super intentionnel de la part de Jésus. Premier indice qu'on a lu, versets 5 et 6, il attend que Lazare meure pour aller s'occuper de Lazare. Il ne veut pas une guérison, il veut une résurrection. Deuxième indice, il attend le 4e jour. Là, c'est peut-être moins clair pour nous, pourquoi c'est important. Mais la tradition juive, depuis très 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 longtemps, croyait que l'esprit quittait définitivement le corps à partir du moment où le corps se mettait à pourrir. Donc Jésus, très probablement, il est à un endroit qui s'appelle Bethanie, qui est à 130 km, 150 km de Bethanie. Et donc le temps que les gens arrivent et qu'ils repartent, il aurait pu arriver alors qu'il n'était pas encore mort. Mais Jésus attend encore 2 jours. Et au bout de 2 jours, je vous ai dit, il aurait pu revenir avant qu'il soit encore mort. Non, mais il serait revenu alors qu'il était tout juste mort. Et on pourrait plus facilement croire qu'il n'était pas vraiment mort et qu'on avait mal diagnostiqué son cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est 4 jours de route pour aller envoyer des messagers chercher Jésus. Jésus attend 2 jours de plus. Et là, il sait, à ce moment-là, c'est sa théorie en tout cas, il sait que Jésus est mort, que Lazare est mort. Et donc, il fait les 4 jours de marche à partir de ce moment-là pour qu'il arrive le 4e jour. Et que c'est là qu'il va faire son miracle. Pour qu'il n'y ait aucun doute dans la tête des Juifs. L'Esprit a définitivement quitté cet homme. Et pourtant, Jésus l'a ressuscité. Troisième indice, il annonce d'avance ses plans. On l'a lu, verset 11. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et après, il précise, mais Lazare est mort. Quatrième indice, il prie à voix haute. Vous avez déjà prié pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie d'un ami? Il faut un niveau de courage XXL pour prier à voix haute et le dire à l'ami. Moi, j'ai prié que le cancer de ton fils disparaisse. Il faudrait être vraiment, vraiment confiant au cinglé pour prier ça. Et je sais qu'il va le faire. Jésus, il va à fond. Il dit, il prie à voix haute. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Jésus prie à voix haute pour qu'on sache qu'il n'y a pas du tout d'accident. Que si Lazare va sortir de ce tombeau, c'est parce qu'il l'a demandé à son père. Cinquième indice, Jésus crie, Lazare sort. Sa volonté est exprimée. Maintenant, si Lazare ne sort pas, on va voir son impuissance. Et sixième indice, on a de nombreux témoins. Béthanie était à 3 km de Jérusalem. Il y avait beaucoup d'amis, de famille, de Marthe, Marie, Lazare qui étaient là. Et le texte verset 45 dit « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Il y a de nombreux témoins. 6 indices que Jésus est intentionnel. Il s'assure qu'on sache qu'il est plus fort que la mort. Mais il y a encore plus dans ce miracle. Au fait, certains prédicateurs, c'est pas dans le texte, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment beau,
certains prédicateurs mentionnent heureusement que Jésus a précisé le prénom de Lazare, parce que sinon toutes les tombes se seraient ouvertes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je trouvais ça beau. Et donc Jésus est intentionnel pour nous montrer qu'il est plus fort que la mort, mais il y a plus que ça. C'est une illustration de ce qu'il fait pour nous, ce qu'il peut faire pour nous. Je l'ai mentionné au tout début, intentionnellement, Jésus est confronté à deux menaces de mort. Il y a son ami qui risque la mort, mais lui aussi risque la mort. On vient d'essayer de le lapider et les disciples lui rappellent. Mais il y a juste quelques jours, on essaie de te tuer et tu veux retourner là-bas. Et Jésus est face à un dilemme. Il ne peut pas ressusciter Lazare sans mettre sa vie en danger. Jésus ne peut pas ressusciter Lazare sans mettre sa vie en danger. Et ça, c'est juste une illustration de quelque chose de plus profond pour nous tous. Et on lit la fin du texte et on s'arrêtera là avec quelques conclusions. Verset 47. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt. Qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était le grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Peut-être un peu bizarre comme texte. On a ici un homme qui déteste Jésus, qui prophétise comment Jésus va mourir et le but de la mort de Jésus. Mais en fait, c'est ce qu'on découvre depuis le début de la série. Il y a bien plus grave que la mort physique. Il y a bien plus grave que la souffrance de nos corps. Et Jésus, oui, il ne peut pas ressusciter Lazare sans mettre sa propre vie en danger. Mais s'il nous promet la vie, il ne nous promet pas la vie facile, riche, prospère, en bonne santé dans cette vie. Il nous promet la vie éternelle. Ça veut dire qu'on ne serait pas jugé pour nos péchés. On ne serait pas condamné pour nos fautes. Et comment est-ce qu'il peut faire de telles promesses? Il peut, là c'est le vrai dilemme, ce n'est pas juste mettre sa vie en danger. Jésus ne peut pas promettre la vie éternelle sans lui-même mourir pour nos fautes. Et c'est ce qu'annonce ce grand prêtre Caïphe. Il annonce prophétiquement, alors qu'il déteste Jésus, qu'il n'est lui-même pas disciple de Jésus, Dieu est plus fort et il lui fait prophétiser que Jésus va mourir pour la nation. Et nous, on voit plein de choses qui sont urgentes dans notre vie. Eux, ils voient que Rome est un danger. Et ils craignent Rome. Mais ton plus grand danger, mon plus grand danger, c'est pas la mort, c'est pas Satan, c'est pas même mon péché. C'est un Dieu qui va juger mon péché. S'il n'y avait pas ce Dieu-là, un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu qui ultimement va effectivement rétablir la justice. S'il n'y avait pas ce Dieu-là, vivons, buvons, on va mourir, on s'en fiche. Mais on va tous être face à ce Dieu-là. Et Jésus est venu mourir pour nos péchés. Jésus est ce sacrifice parfait. Depuis Jean 1, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et c'est ce qu'on va célébrer avec le baptême. On a 4 jeunes qui croient que Jésus est mort à leur place. Et on va en parler. Ils croient qu'en Jésus, ils ont une nouvelle vie. Et ils croient surtout, par rapport à ce texte, que Jésus est plus fort que la mort. Et donc, on peut lui faire confiance qu'il va nous offrir la vie. Il a vaincu la mort, donc on sait qu'il a la vie éternelle à nous offrir. Et on ne va pas vivre la mort éternelle du jugement devant Dieu. Alors, comment réagir à un texte comme ça? Je ne sais pas, est-ce que vous faites confiance à Jésus? C'est une chose de penser que Jésus est un grand personnage de l'histoire, un grand philosophe. Mais Jésus annonce que tous les hommes vont mourir, sauf s'ils ont placé leur confiance en lui. Sauf s'ils manifestent leur confiance en le suivant, dans l'obéissance. Est-ce que tu le crois? Est-ce que je le suis? Deuxième façon de répondre à ce texte, c'est peut-être un peu impertinent, mais si Jésus te déçoit, si tu es déçu de Jésus, du christianisme, ou si tu es chrétien, mais de façon, pas trop pratiquant, est-ce que tu as oublié à quoi sert Jésus? On a transformé le Jésus de la Bible en un Jésus qui apporte richesse, prospérité, santé, bonheur, amour, enfants, etc. Jésus est venu nous sauver de la colère de Dieu qui va nous faire périr éternellement. Il est venu mourir à notre place. Et c'est pour ça, essentiellement, qu'il est venu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on ait la vie éternelle et qu'on ne meure pas. Et beaucoup de chrétiens, de personnes qui ont grandi chrétiens, on ne sait pas où ils en sont, mais diraient croire en Jésus. Mais Jésus, c'est un gris-gris. Jésus, c'est un porte-bonheur, au mieux. Quelqu'un d'intéressant, peut-être utile de temps en temps, quand vraiment les choses vont mal. Et quand les choses vont mal, et qu'il ne répond pas, on doute de son existence, on doute de sa bonté, on doute de sa puissance. Mais Jésus nous garantit, on a plein de preuves dans ce texte, qu'il est plus fort que la mort, et donc on peut lui faire confiance. Il ne te garantit pas, il ne me garantit pas la santé. Il ne me garantit pas une famille. Il ne me garantit pas un emploi. Il me garantit beaucoup de choses, il ne me les garantit pas. Mais il est plus fort que la mort. Et notre ennemi de la mort éternelle est vaincu. Il est mort à la croix pour le vaincre. Et donc, dans les doutes, on doit se rappeler les vérités de ce que Jésus a fait. On doit se rappeler ça. Et tout d'un coup, la souffrance qu'on vit, elle peut être réelle. On peut pleurer avec Jésus. Mais on sait qu'ultimement, Jésus a fait l'essentiel. Le Titanic est en train de couler peut-être. Mais on va avoir la vie éternelle avec lui. Donc, vous voyez pourquoi c'est un peu impertinent, parce que on parle de à quoi sert Jésus. Moi, je pensais, pour les enfants, ça va peut-être vous parler, mais la petite sirène, vous vous souvenez de la petite sirène ou pas? Il y a le fameux, la mouette, Eureka, qui trouve plein d'objets, et il s'en sert, il les invente, il crée des noms, et il s'en sert pas du tout pour le bon usage. Et donc après, on s'étonne que ça déçoit nos attentes. Beaucoup de personnes sont déçues de Jésus, parce qu'ils ont mal compris pourquoi Jésus est venu. Donc je vais résumer, et on s'arrête. Face à la mort, c'est normal de douter de l'existence de Dieu, mais on voit que les doutes classiques des athées sont détruits par la vie même de Jésus. Il est effectivement bon, il est effectivement tout-puissant, et en même temps, il utilise le mal pour un plus grand bien. Deuxièmement, face à la mort, la vérité, c'est la seule chose qui peut véritablement nous soulager. C'est pas une question de connaissance intellectuelle qui sert à rien. Non, c'est une question de vie ou de mort, de savoir qui est Jésus. Troisièmement, face à la mort, Jésus pleure avec nous. C'est pas simplement intellectuel, c'est à la fois vérité et émotion. Vérité et complètement présent physiquement, psychiquement, mentalement, émotionnellement. Et quatrièmement, face à la mort, Jésus est plus fort. Et donc l'espoir du chrétien, c'est pas une vie prospère, c'est pas une vie en bonne santé, c'est pas épouse, mari, enfant, métier. Non, c'est que face à la mort, dans la mort, on sait que Jésus a été plus fort et on peut lui faire confiance. Et donc j'espère que vous allez tous un jour faire confiance à Jésus. Mais je sais que de nombreuses personnes rejettent toujours le vrai Jésus historique. Et je vous supplie de venir à lui, de lui faire confiance. Et vous allez encore voir 4 jeunes, pourquoi ils ont fait confiance à Jésus. Et ils vont raconter ce que Jésus a fait dans leur vie. Je vais prier pour nous tous. Jésus, tu vois que dans mon cœur et dans nos cœurs à tous, c'est une chose de savoir intellectuellement que tu es plus fort que la mort. Et c'est une autre chose entièrement autre que de réaliser que c'est la meilleure nouvelle de tous les temps. S'il te plaît, Jésus, aie pitié de nous. Fais-nous réaliser notre mortalité, qu'on peut mourir à n'importe quel instant, et que c'est la question peut-être la plus pressante de savoir est-ce qu'on te fait confiance dans notre vie pour notre mort. Et Jésus, s'il te plaît, sauve. S'il te plaît, sauve-nous. Travaille les cœurs. Tu vois ceux qui te rejettent. Convainc-les de ton amour et de ta puissance. Et Jésus, tu vois nous, peut-être chrétiens, qui avons tendance à douter de toi, douter de ta bonté, de ta puissance. S'il te plaît, réconforte-nous à travers ce chapitre magnifique, histoire, ce miracle que tu as fait. Et Jésus, tu vois les 4 qui vont être baptisés ici, permets qu'ils vivent une vie entière en sachant que tu as vaincu la mort, que l'essentiel, tu l'as fait, le plus important, tu l'as géré. Et s'il te plaît, sois leur seul espoir tout au long de leur vie. On demande tout ça, Jésus, pour ta gloire. On demande tout ça aussi pour que de nombreuses personnes, comme tu l'as voulu dans Jean 11, crois en toi, crois en toi, crois en toi. S'il te plaît, sois glorifié au milieu de nous. Amen.